Bonjour frères et sœurs. Ceci est un message de Dürr Zickens qui a pour titre 666, la signification de ce nombre dans l'Apocalypse de Jean. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter de la connaissance. Veuillez rechercher avec moi Matthieu chapitre 24. Jésus y tient un long discours avec des paraboles au sujet de ce qui arrivera dans la fin des temps. On appelle parfois ce discours le deuxième sermon sur la montagne. Au verset 15 de ce chapitre 24, Jésus dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. » Il est donc question ici d'une abomination de désolation dans le lieu saint. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, verset 14, il est écrit « Lorsque vous verrez établi là où elle ne doit pas être, etc. » Car cette abomination ne convient pas dans le temple. Lisons dans l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 12, verset 11. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. C'est de cette abomination-là qu'il s'agit. Et il est question aussi du sacrifice perpétuel qui sera interrompu. Quel est le sacrifice perpétuel ou éternel? C'est le sacrifice de Jésus qui vaut pour toute l'éternité. Ce sacrifice qui est la base de notre vie chrétienne va disparaître progressivement de la pensée de la multitude et sera remplacé par quelque chose d'abominable. En anglais, cela se traduit par le mot « change ». Il s'agit d'un échange. Et le lieu saint, c'est le temple de Dieu. Mais ce n'est pas le temple que l'on voit, c'est le temple invisible où Dieu habite par l'Esprit. Ce sont tous les chrétiens remplis d'Esprit Saint. En d'autres termes, nous sommes son temple. Les historiens ont dit qu'il y a eu un empereur qui enleva l'autel de l'Holocauste, hors du temple, à Jérusalem, et qui le remplaça par une statue d'idole. Cela est d'ailleurs arrivé plusieurs fois dans le temple à Jérusalem. On y a mis la statue d'Astarté, par exemple. C'est un autre habitant qui s'installe dans le temple de Dieu. Lisons aussi Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, dis au prince de Tyr. » Le prince de Tyr habite sur une île, et une île est une montagne dans la mer, qui a sa base dans le fond de la mer et qui se manifeste en sortant de l'eau. C'est une image du royaume des morts qui se manifeste sur la terre. Le prince de Tyr est l'image de l'Antéchrist. Dieu dit à Ézéchiel, « Dis au prince de Tyr, ton cœur a été arrogant, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au cœur des mers. » Mais, dit Dieu, tu n'es qu'un homme et non Dieu. Et parce que tu as dit tout cela, parce que tu as été arrogant, tu mourras. Lisez ceci au verset 10. Nous pouvons lire aussi ce que dit Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. D'abord viendra l'apostasie de ceux qui avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu et qui ensuite choisissent délibérément de se détourner de lui. Ils se disent « Je n'ai rien à faire de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas très sensationnel. Il est si discret. Et moi je veux des prodiges magnifiques et des signes pour épater le monde. » Mais ceci attriste l'Esprit Saint. C'est dommage, car l'Esprit Saint est modeste. Il n'aime pas la force ni la violence. Et lorsqu'on éteint ainsi l'Esprit Saint, il se crée alors un espace vide dans le cœur de l'homme. Espace qui est vite repris par l'esprit antichrétien. Pourquoi ces chrétiens agissent-ils ainsi? Sont-ils déçus de l'Esprit Saint? Peut-être parce que cela dure si longtemps. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 4, « Dans les derniers jours, il viendra des gens qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car cela dure si longtemps. » Et au verset 5, on dit qu'ils oublient volontairement que Dieu agit autrement que de la façon dont ils voudraient. Car ils veulent de l'action, ils veulent des événements. Paul dit, d'abord viendra l'apostasie. Donc, d'abord viendra une sorte de chrétien, en fait, qui se nomme chrétien, qui ont en fait choisi pour le contraire. Et Paul les appelle les anarchiques ou les impies. Voyez ce qu'en dit 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous pouvez lire ce chapitre en entier, parce que tout y est très bien expliqué. Et ce mauvais esprit veut habiter la demeure que Dieu s'est destinée, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire l'esprit humain. L'Antéchrist veut y régner. Et je pense que actuellement le monde est mûr pour ce développement, parce qu'on n'a jamais vu autant de spiritualité dans le monde. Bien sûr, cela arrive fréquemment lors d'un changement de siècle. Mais maintenant, cet intérêt croissant pour la spiritualité dans l'art, dans le cinéma, la littérature, la télévision, c'est vraiment frappant. Il est très à la mode d'établir des contacts dans le monde spirituel. On demande à avoir de grands dirigeants spirituels, des figures charismatiques qui savent bien parler, qui savent attirer les foules. Donc, pas de petits clubs modestes qui n'ont aucune gloire, qui ne sont pas très connus. Non, on veut des mouvements spirituels mondiaux, avec des millions d'adeptes, et tout cela au nom de Dieu. Et les dirigeants de ces mouvements prétendent être des fils de Dieu. Ceux-là qui sont attendus par la création. Mais si ces dirigeants disent cela d'eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils se disent être des oints du Seigneur. Ils se font passer pour Dieu, comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais même Jésus ne disait pas cela de lui-même. Dans les temps futurs, ils s'érigeront comme des fondateurs de paix sur la terre, et ils auront beaucoup de succès, grâce à leurs prodiges trompeurs. Ils formeront un parti politique et religieux mondial. Ils se diront les grands sauveurs de l'humanité. Être comme Dieu, c'est la tentation la plus vieille qui existe. Souvenez-vous dans la Genèse, « Ne savez-vous pas que si vous en mangez, vous serez comme des dieux ?» disait Satan. Alors, ils mangèrent de l'arbre spirituel de la connaissance du bien et du mal. Mais le bien et le mal ne peuvent pas coexister. Ce qui semble être le bien est en fait le mal. Et le vieux mensonge « être comme Dieu » s'est fait chair et sang dans l'Antéchrist. Le monde ne doit plus avoir qu'une seule langue, comme jadis au moment de la tour de Babel, de sorte que le monde entier parle de la même chose. Babel signifie la porte des dieux, et les démons y ont carte blanche. C'est un gigantesque édifice qui s'érige dans le monde invisible. Dans Apocalypse, chapitre 18, verset 2, il est écrit que la grande Babylone est devenue un repaire d'esprits impurs. Et il y en a beaucoup de ces esprits impurs. Et ils entraînent la terre entière avec eux. La foule, la multitude les suit, émerveillée. Et en contraste, il y a ce petit tabernacle mobile de notre Père. Dans ce contexte, pensez à ce que Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 32. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je retourne à l'Apocalypse. Le nom Apocalypse signifie « ôter le voile ». Dans Matthieu, chapitre 24 et 25, Jésus a raconté beaucoup au sujet des choses à venir. Comment viendra l'apostasie et les faux Christ? Christ signifie « oint ». Par conséquent, « antéchrist » signifie « anti-oint ». Et l'antéchrist est baptisé dans un autre esprit, bien qu'il continue à se nommer Esprit Saint. Mais c'est un autre esprit. Il s'agit de personnes qui connaissent la doctrine du royaume des cieux. Elles savent beaucoup sur le monde invisible. Et les notions baptême, renaissance, ne leur sont pas inconnues. Donc, elles avaient d'abord choisi le bien, mais ensuite, elles choisissent le mal, parce qu'au fond de leur cœur, il y avait un mauvais motif. Ces personnes veulent être comme Dieu, mais par un autre moyen. Elles veulent régner et non pas servir. Elles ont part au monde de pensée du diable. Et c'est pourquoi il est très important d'avoir une bonne image de Dieu. Il faut savoir que Dieu est uniquement amour. Dieu est un Père aimant en qui il n'y a aucune trace de ténèbres. Il est uniquement bon. En lui, il n'y a pas de violence ni d'esprit dominateur. Et son petit troupeau connaît la voix du bon berger. Et le petit troupeau est conduit à travers le chaos religieux actuel. il suit la voie étroite. C'est cela, le chemin étroit. Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 3. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête est un mauvais esprit qui sort de la mer, qui est l'image du royaume des morts. Ce mauvais esprit a été appelé par le malin, le dragon du chapitre 12, verset 18. Le diable se tient donc debout sur la plage, et il appelle son atout majeur hors de l'abîme. Cet esprit de l'Antéchrist a sur ses têtes des noms de blasphème. Quels sont ces noms de blasphème? Ce ne sont pas des malédictions, mais ce sont des appellations de propriété divine qui appartiennent à Dieu et à Jésus, comme bonté, gloire, amour, majesté, salut, filiation divine, etc. Le diable se pare de ces noms pour séduire l'homme, et il se nomme lui-même Esprit Saint. Il emploie exactement les mêmes mots que nous. Donc, si quelque chose est important aujourd'hui, c'est bien le discernement des esprits. Et voyons le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Il s'agit d'un homme inspiré par cet esprit. L'homme qui vient de la terre. Lorsque l'homme collabore avec cet esprit, alors naît l'antéchrist, c'est-à-dire le contre-ouin, le candidat opposé. Et c'est le plus grand atout du diable. La suite du verset 11 dit que la bête parle comme un dragon et qu'elle ressemble à l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus. Quel imposteur! Il dit qu'il est le Christ revenu en gloire. Il se dit divin. Prions afin de ne pas succomber à la tentation de le croire, ou plus grave encore, de collaborer avec lui. C'est cela l'horreur qui détruit l'homme. Au verset 3 et 4 de ce chapitre, on voit que la bête est suivie par la terre entière. Il s'agit donc d'une multitude. Tous les hommes la suivent. Cela est rendu possible avec les moyens de communication modernes. Tous suivent la bête, et que font-ils? Ils se prosternent, ils l'adorent. On peut se représenter la scène, des happenings de masse, des foules qui adorent, qui louent et qui glorifient, et cela partout dans le monde. Cette foule innombrable s'abandonne à cet esprit. C'est incroyable, mais tous sont sous l'emprise. Ils se prosternent en disant « Qui est semblable à la bête ?» Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 71, verset 19, c'est de Dieu que l'on dit cela. Mais ici, c'est la bête qui s'approprie cette louange. C'est donc un blasphème. L'Antéchrist est l'incarnation de cet esprit malin. Il emploie les mêmes paroles que Jésus. Il a reçu tous ses pouvoirs du diable, et ce dernier est le prince de ce monde. L'Antéchrist recevra tout le pouvoir sur le monde. Ce n'est pas pour rien que Jean dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ». Et il s'agit des esprits qui habitent dans des hommes. Discernez donc bien si un homme est né de Dieu ou pas. Même s'il dit « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre », même s'il dit que votre volonté se fasse au ciel et sur la terre. C'est parce qu'il emploie exactement les mêmes paroles qu'il est si difficile à discerner. Il aura des fils qui se diront fils de Dieu, alors qu'ils sont engendrés par le Père du mensonge. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, humbles, pleins d'amour, mais au contraire, ce sont des dominateurs. L'expression « le Père, le Fils et l'Esprit » est aussi applicable ici. Le Père du mensonge, l'Esprit de l'Antéchrist et les fils qu'ils produisent. Comment Jésus appelle-t-il ces Christs ? Des faux. En grec, cela se dit des pseudos. Ils semblent si beaux, mais ils ne sont pas vrais. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Tous reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Cela signifie que leurs pensées et leurs actions seront marquées de la bête. Et cette marque se trouve à l'intérieur. C'est le baptême avec le mauvais esprit. Examinons à présent l'histoire relatée dans Daniel, chapitre 2. Vous connaissez sans doute cette histoire du rêve du roi Nebuchadnezzar et de l'explication que Daniel en donna. Il s'agissait d'une statue immense à la tête d'or et aux pieds d'argile et de fer. La base de cette statue était faite d'argile, qui est l'image de l'homme terrestre, et de fer, qui en ces temps-là était un métal impur, surtout parce qu'on en fabriquait des armes. Dans le verset 43, il est dit « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » Pourtant, le fer et l'argile ne se supportent pas mutuellement. Le fer est le symbole de l'Antéchrist. Et l'esprit humain et l'esprit de l'Antéchrist ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est l'esprit de Dieu qui convient à l'esprit humain, et non pas cet esprit abominable. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Mais le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, suite à ce rêve, érige une grande statue en or. Ce roi d'un royaume antichrétien érige une statue entièrement en or. Et qui doit se prosterner devant? Tout le monde habité. Avec toutes sortes d'instruments de musique. Parce que la musique est entraînante. Et tout le monde doit adorer la statue. Cette statue-ci est haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Ces chiffres 60 et 6 m'ont interpellé. Nous avons donc 60 et 6. En y ajoutant encore 600, nous obtenons 666. Retournons à Apocalypse chapitre 13, verset 18, où il est dit que le chiffre de la bête est 666, et aussi que c'est un chiffre d'homme. Le chiffre 600 montre la profondeur de la pensée de cet esprit. Une dimension de profondes ténèbres. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, on lit que l'église de Thyatire connaît les profondeurs de Satan. Et ceci est le terrain le plus dangereux qui soit. Les chrétiens apprennent à connaître la profondeur de Dieu par le moyen de l'Esprit Saint. mais au moyen de l'esprit de l'Antéchrist, on apprend à connaître la profondeur des pensées du diable. Et cela, nous ne le voulons surtout pas, car cela ne sied pas à l'homme. Ceux qui veulent avoir communion avec l'esprit de l'Antéchrist, ce sont ceux qui veulent dominer la terre. Et ils recevront la puissance politico-religieuse. Pensez à l'une de ces propositions du diable envers Jésus lorsqu'il fut tenté dans le désert. Le diable disait à Jésus, « Si tu m'adores, je te donnerai tout pouvoir sur la terre. » Mais Jésus a résisté. Quelle tentation ! Céderiez-vous devant cette tentation ? Imaginez que vous pourriez avoir tout à dire dans le monde politique, le monde spirituel. La terre entière est à vos pieds. Chacun adore la statue. Voyez Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et quand on adore la bête, cela s'accompagne de beaucoup de musique, tout comme à Babylone. Un jour, je suis allée dans une église où la musique était étourdissante. Elle empêchait même de penser, de réfléchir. Mais peut-être était cela le but. Alors, je me suis déconnectée de mon entourage. Je me suis déconnectée de ce vacarme. Et à l'intérieur, j'ai retrouvé le silence. Dieu était avec moi, dans le silence et le repos. Car c'est un Dieu de silence, un Dieu d'amour, un Dieu de simplicité. Et son esprit est aussi un esprit de simplicité. Savez-vous ce que signifie le nom Nebuchadnezzar ? Eh bien, c'est à peu près ceci. Dieu de sagesse, fils héritier protégé. C'est en fait un titre magnifique qui pourrait s'appliquer à Jésus s'il n'était pas d'origine païenne. Les fils de ce faux Dieu, les fils de la perdition, disent les mêmes paroles que nous. Mais ils sont les fils d'un autre Père. Ils ont un autre esprit et il y a un autre fils héritier. C'est l'opposé de Jésus. Jésus est le fils héritier de son Père. Les faux Christ, les prophètes de mensonges sont impitoyables. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, il est écrit qu'il s'élèvera un roi impudent, rude de face et artificieux, interprète d'énigmes. Il sera donc rusé comme le serpent. Dans le verset 24, nous lisons « Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions. Il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants et le peuple des saints. Il réussira et il aura du succès. » Il pourrait même chanter un cantique, comme par exemple le psaume 1, verset 3. Il est tellement rusé, tellement hypocrite. Il est l'ultime contraire de notre Seigneur Jésus, qui est doux et humble de cœur. Quel contraste ! Le chiffre de la bête, cet homme antichrétien, c'est sa caractéristique spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 4, il est adressé une sentence contre le roi de Babylone. Le roi de Babylone est appelé tyran oppresseur. Et au verset 12, nous lisons cependant « Astre brillant, fils de l'aurore ». Ces derniers noms sont en fait des noms que seul Dieu et son Fils Jésus peuvent porter. Dans le psaume 110, verset 3, nous lisons que Dieu est dans la splendeur du sein de l'aurore. Nous sommes son peuple, nous sommes nés de Dieu et conçus dans l'amour tendre. Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit au chapitre 1, verset 19, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, l'astre lumineux, c'est le Seigneur vivant, la parole de Dieu. Le roi de la fausse église s'est approprié ces noms, et donc il blasphème. Ésaïe l'appelle l'usurpateur des peuples. Et voilà la vraie nature de ce faux Christ. Car Dieu n'utilise jamais la violence. Nous avons pu le vérifier dans son Fils premier-né. Le chiffre humain, 666, désigne la foule de violence spirituelle de la bête. Et à l'opposé se trouve le petit troupeau de Dieu. Combien seront-ils? Combien seront-ils en ces jours-là? Nul ne le sait. Je les appellerai les sept branches du chandelier de Dieu. Et ce chandelier est une image de l'Esprit Saint qui se divise en sept esprits devant le trône de Dieu. C'est un seul esprit, mais qui se partage entre les sept églises. Donc, toutes les églises où est l'Esprit de Dieu peuvent s'appeler les sept églises de Dieu. Parce que c'est un concept. Le chiffre 7 est souvent un symbole de plénitude. Ce sont toutes des images. Mais le chandelier avec ses sept petites flammes, c'est bien autre chose que le feu dévorant du dragon. C'est pourquoi Jésus commence son sermon dans Matthieu chapitre 24, au verset 4, en disant « Prenez garde !» Et aussi « Ne vous alarmez pas !» Car Jésus sait très bien que l'on peut être sérieusement inquiet à cause de ces choses à venir. Mais gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. C'est une parole forte, mais rassurante. Et aussi, ne vous laissez pas séduire. Car ces choses doivent arriver, non pas parce que le Seigneur le veut, mais parce que le diable le veut. Ne soyez pas inquiets. Prions donc afin de ne pas tomber dans la tentation et prions d'être délivrés du malin. Il est capital d'être continuellement occupé avec ces choses, les choses du royaume des cieux, le royaume de Dieu, car il est tellement riche et nous pouvons en être remplis. Et lorsque nous mourrons, notre monde de pensée nous accompagnera. Et il continuera à se développer. Dans le début de la Bible, à la Genèse, on a la semence de la femme et de l'autre côté la semence du serpent. Et les deux arrivent à maturité. La semence du serpent produit des fils de Dieu autoproclamés. Et la semence de la femme produit les vrais fils de Dieu. Plus notre image de Dieu devient limpide et claire, plus nous le voyons un et uniquement amour. Plus clairement s'affermira notre image, car nous deviendrons conformes à lui, conformes à son image et à sa ressemblance. Nous serons pleins de miséricorde. S'il y a quelque chose dont les hommes ont grand besoin dans ce monde, c'est bien d'un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Les hommes ont besoin de compassion. Ils ont besoin de quelqu'un qui les serre dans leurs bras, dans ses bras. Et je pense que c'est le secret de Dieu. Dieu est un Dieu de compassion. Et quiconque est aimé du Père aime à son tour de l'amour dont il est aimé. Approfondissons cet amour tendre qui est la profondeur de Dieu. Amen. Prions. Père, ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du malin. Que l'on puisse dire de nous que nous sommes pleins de compassion. Nous prions aussi pour tous ceux qui nous écoutent, afin qu'ils se rendent compte que vous les aimez, Père, tels qu'ils sont. Qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas de toutes sortes d'efforts ni de mortifications, mais qu'il s'agit d'oser se confier à vous, Père, et que nous nous sachions en sécurité entre vos mains, protégés contre toute la violence. Père, vous êtes un et vous êtes amour. Amen.